La science CQFD, Natacha Trioux.
Aujourd'hui, pour notre grand portrait, on rencontre l'un des spécialistes mondiaux des astéroïdes, l'astrophysicien Patrick Michel est notre invité. Nous vivons l'âge d'or de l'exploration des astéroïdes et il en est un acteur majeur. Depuis la fin des années 90, il est impliqué dans presque toutes les missions qui sont parties à leur rencontre. À chaque fois que nous leur avons rendu visite, nous avons toujours été surpris car nous sommes encore loin de comprendre ces objets. Et comme ils sont une menace à ne pas prendre à la légère, le chercheur est aussi très impliqué pour la protection de notre planète contre les risques d'impact. Patrick Michel à la croisée des géocroiseurs. En duplex de France Bleu Azur, bonjour Patrick Michel.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, responsable scientifique de la mission ERA, en développement à l'ESA qui sera lancée fin 2024 en coopération avec la mission DART de la NASA, dont vous faites également partie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur Twitter, sur X, pour notre live tweet, sur notre fil @CQFD, c'est un live tweet qui commence tout de suite. Alors, quelle est la somme des connaissances acquises par les nombreuses missions d'exploration spatiale vers les astéroïdes? Comment ces missions nous informent-elles sur la physique des impacts de ces petits corps? Et comment se prépare-t-on aux potentielles collisions à venir? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour. La science des astéroïdes est une science récente, en témoigne cette archive de 1977.
Vous savez que dans notre système solaire, on a les grosses planètes, les Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Vous voyez, toute la kyrielle. Or, il se trouve que parmi la progression au point de vue distance de ces astres, il y a en quelque sorte un grand trou entre Mars et Jupiter. Les astronomes sont traditionnellement des gens curieux. Curieux, non pas seulement bizarres, mais également curieux parce qu'ils cherchent à savoir. Et leur curiosité est allée jusqu'à rechercher dans cette zone du ciel s'il n'y avait pas une planète. Et c'est en quelque sorte cette planète manquante que le premier jour du 19e siècle, c'est-à-dire le 1er janvier 1801, car le siècle commence à 1, un astronome, M. Olbers, a eu l'occasion sur un cliché photographique de trouver un petit point qui, au lieu d'être réellement bien marqué comme étant une image ponctuelle, a donné dans le champ de sa lunette d'observation, a montré un petit déplacement. Il était à l'origine planétès, le mot grec qui veut dire astre errant, donc une planète, un objet qui bouge.
C'était donc le premier astéroïde découvert, il y en a eu depuis beaucoup d'autres.
Oui, actuellement on peut estimer à 2007 astéroïdes dûment catalogués. Ce qui veut dire en réalité qu'il y en a beaucoup plus. Même déjà d'identifier provisoirement, mais nous sommes très prudents.
Voilà un extrait de l'émission Voyage dans le cosmos sur France 3 en 1977 et la voix de l'astronome Bernard Millet. Patrick Michel, de 2007 astéroïdes catalogués en 1977, aujourd'hui on sait qu'il y en a beaucoup plus.
Absolument. En fait, alors c'est vrai que les astronomes sont bizarres, de telle sorte qu'ils ont depuis découvert plus de 1 million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc on a vraiment fait, bien sûr, des pas de géant avec les grands télescopes, le télescope spatial Gaia aussi. Donc c'est vraiment, maintenant, on a vraiment une bonne connaissance de la quantité d'objets qu'on a dans cette ceinture, qu'on estime à peu près un millième de la masse de la Terre en tout. Ça n'est d'ailleurs pas une planète manquante, comme il a été dit, ce qu'on l'a pensé. C'est plutôt une planète ratée. Parce qu'en fait, quand le système solaire s'est formé, les planètes ont commencé à se former à partir des poussières qui étaient dans un disque qui entourait le Soleil et qui ont commencé à s'agglomérer pour grossir et former des planètes. Mais une partie de ce matériau a un peu grossi, mais n'a jamais été capturée dans une des planètes et Une fois Jupiter formé et Mars formé, les perturbations de part et d'autre dans la zone entre les deux faisaient que les corps qui y restaient, au lieu de s'agglomérer par collision lente, se détruisaient et ont formé ce bel anneau qui est la ceinture des astéroïdes.
Alors, 1 million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, cette ceinture principale, c'est la pouponnière d'astéroïdes de notre système solaire ?
C'est ça, en fait, c'est vraiment là que réside la plupart de ces corps, dont le plus gros est donc Cérès, le premier découvert par Giuseppe Piazzi à Palerme, donc le 1er janvier 1801. Il fait 950 km de diamètre. Après, on a des corps qui font quelques centaines de kilomètres de diamètre, comme Vesta. Puis on descend en taille, et c'est là qu'on estime qu'on a à peu près 1 million de corps plus grands que 1 kilomètre. Bon, bien sûr, en réalité, si j'étais en solo dans mon Faucon Millenium, je traverserais la ceinture sans en voir aucun. Ça serait un peu ennuyeux pour un film, mais ils sont petits dans un espace très très grand. Ce qui est assez incroyable aussi, c'est qu'ils ont une incroyable diversité en termes de composition pour ce qu'on en sait avec les observations depuis le sol, puisqu'en dépit du fait qu'ils sont dans une zone relativement étroite, eh bien, on trouve des corps qui sont métalliques, des corps rocheux, des corps riches en matière organique, et même on a découvert de la glace à la surface de certains d'entre eux. Donc on a une grande diversité qui nous raconte quelque chose sur les phases précoces du système solaire. Il y a dû y avoir un mélange de matériaux formés à des grandes distances et des distances très différentes, est probablement dû à un balai des planètes qui ne sont pas nécessairement restées là où elles ont été formées.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est que il n'y a pas deux astéroïdes identiques.
Non, en fait, ils représentent un petit peu tout le matériau qui existait, les différentes compositions en fait des éléments qui existaient dans le système solaire. Et l'avantage qu'ils ont par rapport aux planètes, c'est que ils nous permettent de remonter le temps, parce qu'en fait, quand on essaie de fabriquer les planètes, il faut qu'on parte des bons ingrédients quand on veut faire un gâteau. Et le problème qu'on a avec les planètes, c'est que c'est comme un gâteau, elles sont grosses, elles ont chauffé et tout le matériau s'est transformé chimiquement. Donc on n'a pas sur Terre la mémoire de la composition initiale des ingrédients qui ont formé la Terre. Les astéroïdes qui sont les restes en fait des briques de ces planètes, eh bien sont restés suffisamment petits pour ne pas avoir eu de transformation chimique majeure, et donc en analysant leur composition, eh bien on remonte à la composition primordiale du système solaire, ce qui nous permet d'élaborer des recettes de cuisine pour faire ce magnifique système solaire qu'on a maintenant devant nous.
Les astéroïdes, ces fossiles de notre système solaire. Alors aujourd'hui, on a une dizaine de missions entièrement dédiées à ces objets, sans compter les extensions de missions, avec un très grand nombre de pays impliqués en plus. Quelles sont les raisons de toutes ces missions spatiales à destination des astéroïdes ? Pourquoi aller sur place ?
Oui, alors d'abord c'est génial, parce que là on a vraiment des données incroyables, on a des tas de missions qui sont en plus des aventures humaines scientifiques, et avec des surprises et des suspense comme dans les aventures d'Indiana Jones, donc on est vraiment chanceux d'avoir ça. Et la raison, en fait, déjà, c'est parce que ces astéroïdes, en fait, ils permettent de répondre à de nombreuses questions, et ils intéressent des communautés qui ont des objectifs différents, mais qui pour l'instant ont besoin des mêmes connaissances, parce qu'on est encore en train d'apprendre à les connaître. Et alors, pour résumer, les trois principales communautés qui s'y intéressent sont ceux qui s'intéressent à la science, d'abord, puisque, comme je l'ai dit, sont parmi les meilleurs traceurs de l'histoire du système solaire. Il y a ceux qui s'intéressent à la défense planétaire, comment se protéger du risque d'impact. Et puis, il y a ceux qui s'intéressent à les exploiter. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser les astéroïdes ? Alors, c'est encore prospectif, mais comment on pourrait les utiliser pour, par exemple, les utiliser comme des stations-service pour se réalimenter en oxygène, hydrogène qu'ils contiennent. Et en fait, ces trois communautés ont besoin des mêmes informations, ce qui fait que peu importe la raison principale pour laquelle on va voir un astéroïde, eh bien, les connaissances qu'on obtient nourrissent en fait ces communautés, ce qui fait qu'il y a des tas de raisons d'y aller, donc des tas de missions possibles. Alors pourquoi est-ce qu'on va les voir sur place ? C'est parce que, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est passé depuis les années 90 au stade où ces objets étaient des petits points lumineux dans le ciel, qui ne font que réfléchir la lumière du soleil, et donc ils réfléchissent très faiblement parce qu'ils sont petits. On est passé de ce stade-là à la découverte, grâce aux premières images qu'on a obtenues des missions spatiales, que ce sont en fait des véritables petits mondes géologiques très complexes en fait. Ce ne sont pas simplement des petits bouts de caillou dans l'espace. En fait, ce que les missions nous ont montré grâce aux images, c'est que d'abord qu'on a affaire à une incroyable diversité de corps en termes de taille, de forme, de morphologie. J'ai déjà parlé de la composition, mais aussi, même sur un seul astéroïde, on trouve une incroyable diversité de structures géologiques. On voit des avalanches, on voit des cratères, on voit des bassins, on voit des structures un peu bizarres qu'on n'arrive même pas à nommer. On pourrait les appeler des vis tamboires, par exemple. Enfin, parce que, justement, ils évoluent dans un environnement qui n'est pas le même que celui de la Terre, du fait que leur attraction de surface est très faible. Et donc, on a encore un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'ils répondent à tous les processus qu'ils subissent pendant leur histoire, dont la signature sont ces structures.
Et puis tout ça, c'est comme vous dites, impossible de voir ça depuis la Terre, même avec le futur télescope Vera Rubin qui devrait ouvrir ses yeux sur le ciel en 2025. Même avec un télescope pareil, on n'a pas accès à ces informations-là.
Ah non, ce télescope-là nous permettra d'augmenter vraiment beaucoup le nombre de découvertes, en particulier des géocroiseurs, de faire aussi de la spectroscopie, ce qui nous donne des indices sur la composition globale de l'objet. Mais il faut aller les voir pour vraiment se rendre compte de ce qu'ils sont. Et la preuve qu'on en a encore au premier stade de la compréhension de ces corps, c'est que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on est arrivé, on a été surpris. Et franchement, ça c'est extraordinaire pour le scientifique qui adore être surpris. C'est quand on a le privilège en plus d'être dans ces missions et qu'on est parmi les premiers à découvrir les images d'un nouveau territoire, sauf que celui-ci il n'est pas lié à la Terre, il est parfois à des centaines de millions de kilomètres de nous, et que ces premières images en plus nous montrent des choses qu'on n'avait pas prévues, c'est un moment absolument incroyable. Et c'est là qu'on se dit que faire de la science, être curieux et travailler pour la connaissance, ça donne un plaisir énorme, parce que on découvre souvent l'inattendu et ça nous oblige à revoir un petit peu toutes nos idées préconçues. Et ça, c'est magnifique.
Oui, vous parlez de la compréhension de ces corps, mais c'est aussi l'étude de leur estimation du nombre d'astéroïdes, parce que on a parlé en effet de ce million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais on a aussi 16 000 corps qui sont plus grands que 140 mètres de diamètre, et cela, on n'en connaît que 40%.
Oui, alors en fait, ça c'est dans la population qui croise la trajectoire de la Terre, ce qu'on appelle les géocroiseurs, dont la plupart en fait viennent de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, parce que dans cette ceinture, il y a des collisions qui se produisent entre les astéroïdes, qui génèrent des fragments. Certains de ces fragments sont mis sur des zones instables qui les font passer d'une trajectoire en gros circulaire entre Mars et Jupiter à une trajectoire qui s'allonge petit à petit pour finalement croiser la Terre. Et ça se produit en à peine quelques millions d'années, ce qui n'est rien par rapport aux 4 milliards et demi d'années d'évolution du système solaire. Donc on a constamment du matériau qui nous ont envoyé de cette ceinture principale d'astéroïdes. Et donc cette population des géocroiseurs est une sous-population de cette ceinture. Et dans celle-ci, on estime qu'on a à peu près 1000 corps plus grands que 1 km de diamètre, dont la plupart, plus de 90%, ont été découverts et aucun ne nous menace sur le court moyen terme, tant mieux. Et là, ce qu'on voudrait, c'est découvrir tous les objets plus grands que 140 mètres de diamètre, c'est le nouveau seuil, dont on ne connaît effectivement que 40% sur les quelques dizaines de milliers, parce qu'ils sont évidemment petits, très nombreux, donc il faut vraiment des gros télescopes et du temps d'observation. Et ce seuil de 140 mètres, c'est un seuil en taille défini en estimant qu'un objet qui tombe sur Terre de cette taille-là produirait des dégâts à l'échelle d'une grande région, voire d'un pays, selon la vitesse d'impact et la densité. La bonne nouvelle, c'est que avec le Vera Rubin, donc on va en découvrir beaucoup, mais même les observations terrestres, il faudrait des décennies pour tous les découvrir. C'est vraiment des objets tout petits. 140 mètres, c'est la dimension d'un stade de foot. Donc imaginez un stade de foot dans l'espace et des milliers, enfin, et qui réfléchissent très peu la lumière. C'est très difficile à observer. Donc la NASA devrait lancer en 2028 un télescope spatial dédié à leur inventaire, qui s'appelle NEO Surveyor. Et ce télescope, en 10 ans, devrait nous permettre de faire l'inventaire des objets de plus grands que 140 mètres, permettant ainsi de vérifier s'il y en a un qui éventuellement pourrait nous venir dessus, et à long terme de pouvoir anticiper une menace.
On va parler de calcul de trajectoire de ces géocroiseurs, on va aussi parler de votre trajectoire à vous, Patrick Michel. Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD. Natacha Trio.
Sur France Culture, on écoute celui qui fait parler les astéroïdes. Ces mondes mystérieux et lointains, nous entretenons tout au long de cette heure avec Patrick Michel. Patrick Michel, qui est aussi le nom donné à l'astéroïde 7561. Patrick Michel, vous êtes né le 25 février 1970 à Saint-Tropez. Qu'est-ce qui vous a orienté vers les sciences et plus particulièrement vers l'espace ?
Alors ça, c'est une très bonne question, et d'ailleurs la réponse m'encourage à vulgariser, parce que c'est finalement grâce à un professeur de physique qui un jour nous a dit en terminale que finalement les mathématiques c'était un langage pour décrire la nature, ce qui est magnifique et c'est vrai, et que si on était capable de mettre en équation notre compréhension des phénomènes physiques et de résoudre ces équations, on pouvait prédire, sans la toucher, l'âge d'une étoile, sa masse, sa température. Et j'ai trouvé ça puissant, que simplement avec des outils créés par l'homme, des langages, on arrive à décrire la nature, à la comprendre et à prédire ce qui se passe. Et à partir de là, alors j'étais à Saint-Tropez, je côtoyais les étoiles du cinéma, et puis je me suis vite rendu compte que celles du ciel étaient plus... On pouvait les mettre en équation, ce qui est quand même plus facile. Et à partir de là, j'ai quitté ma région pour faire des études d'ingénieur, et puis à terme faire un doctorat en astrophysique sur la thématique justement de l'évolution et de l'origine de ces fameux géocroiseurs.
Oui, en 1997, c'est à ce moment-là que vous soutenez votre thèse. À l'époque, où en est la recherche scientifique à leur sujet, au sujet de ces fameux géocroiseurs?
Oui, alors c'est marrant parce que quand je me remémore à l'époque les ordinateurs que l'on avait, parce que c'était les premiers calculs numériques de l'évolution de ces objets qui sont soumis aux perturbations des planètes, donc ils ont des évolutions très dures à calculer dans le temps, parce que les évolutions sont très sensibles aux conditions initiales que l'on prend pour démarrer les calculs. En faisant varier un tout petit peu la trajectoire initiale d'un astéroïde, au cours du temps, deux calculs vont donner des résultats très différents. Donc un petit peu comme en météorologie, quand on mesure la pression, la densité, la température, enfin tout ce qu'il faut pour démarrer la prédiction du temps qu'il va faire dans les jours qui viennent, deux calculs qui partent avec des valeurs légèrement différentes vont donner à peu près le même temps demain après-demain, puis au bout d'un moment, il y en a un qui va dire la pluie, l'autre le soleil, et donc on saura plus prédire. Et les astéroïdes sont soumis aussi à ces perturbations, et on en était à l'époque, on essayait de comprendre ça, sachant qu'à l'époque, calculer l'évolution d'un astéroïde dans le temps... par rapport à maintenant, prenait presque un temps infini. Enfin, c'était absolument incroyable. Donc, c'était très prospectif. Et j'avais eu la chance, je m'intéressais à un astéroïde qui s'appelait Eros, qui est donc le deuxième plus gros géocroiseur. Il fait à peu près 17 kilomètres de diamètre moyen. Et j'avais calculé son évolution, parce qu'en fait, il y avait une mission de la NASA qui s'appelait NIR, qui allait être lancée pour aller lui rendre visite. Et donc, j'étais motivé de savoir qu'est-ce qui pouvait arriver à un aussi gros corps. Et puis, un jour, j'avais lancé plein de calculs en partant avec des conditions initiales, comme je dis, un peu différentes pour voir quelles étaient les possibilités. Et un jour, je vérifie mes calculs et il y en a un qui s'est arrêté. Je me dis, ça doit être un bug dans mon programme ou alors l'ordinateur qui s'est coupé. Puis, je vérifie et en fait, je vois qu'il s'est coupé au moment où l'objet tombe sur Terre. Donc, il y avait une évolution qui aboutissait à une collision d'Eros avec la Terre. Alors là, j'en suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, voilà, ça c'est incroyable. Bon, certes, c'était dans 1 million d'années, etc. Et puis, ça m'a valu de publier dans Nature ce résultat qui montrait en plus un mécanisme qui permettait d'amener vers la Terre un nouveau mécanisme d'un astéroïde. Et puis, à partir de là, c'était la première fois que je commençais à m'impliquer dans le spatial par hasard à cause de cet événement, parce que je reçois un email, alors à l'époque on recevait un email par jour, c'était magnifique par rapport à maintenant, et je reçois un email avec le logo NASA en bas du directeur de la mission NIR qui m'invitait au lancement et qui cherchait à avoir une copie de mon article, parce qu'évidemment pour eux ça mettait en valeur leur mission, ils allaient voir un objet qui potentiellement pouvait à terme tomber sur Terre. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis rentré dans le spatial, et c'est aussi comme ça que je suis rentré dans la vulgarisation et mes premières télés, parce que j'ai été invité à ce moment-là sur des télévisions, notamment une espagnole, qui faisait une émission comme Les Dossiers de l'écran, où ils montraient le film Météor avec Sean Connery et Natalie Wood à l'époque, qui devait dévier un astéroïde. Et je devais commenter après, en direct, comme dans Les Dossiers de l'écran, le film, et dire est-ce que c'était plausible ou pas. Sauf que j'étais très très jeune, j'avais 26 ans, ils trouvaient que je faisais trop jeune, donc ils m'avaient teint les cheveux un petit peu en gris pour que je sois plus crédible.
Et puis vous avez été par la suite vite recruté par le CNRS à 29 ans. Mais pour revenir justement sur cette étude Nature et puis par la suite des recherches sur ces questions justement de trajectoire, quels sont plus précisément les mécanismes qui peuvent influencer, précipiter un astéroïde vers la Terre?
Alors les mécanismes, il y en a, alors on va dire trois mécanismes. D'abord dans la ceinture des astéroïdes, il y a des zones dans lesquelles si un objet est mis là, eh bien, il va trouver une route qui l'envoie vers la Terre, c'est-à-dire qu'il va quitter sa trajectoire circulaire. Alors, ça s'appelle des résonances. Pour le dire très simplement, il y en a une, voilà, ça va être facile. À 2,5 fois la distance de la Terre au Soleil, l'astéroïde fait exactement 3 tours autour du Soleil en même temps que Jupiter fait 1 tour. On appelle ça la résonance 3 sur 1. Donc, je fais 3 tours, je suis l'astéroïde, Jupiter fait 1 tour. Et cette géométrie répétée accumule les perturbations de Jupiter sur l'astéroïde et lui fait quitter sa trajectoire dans la ceinture pour l'amener vers la Terre. Et on a à chaque distance fixe du Soleil des résonances comme ceci. Alors il y a une zone où on fait 5 tours, Jupiter fait 2 tours, c'est la résonance 5 sur 2, etc. Donc ça, c'est pour partir de la ceinture, ces fameuses résonances. Ensuite, une fois qu'on est soumis aux perturbations planétaires, donc une fois qu'on croise la trajectoire des planètes, à ce moment-là, c'est principalement ces rencontres proches avec les planètes qui font soumettre à l'astéroïde une gravité beaucoup plus forte et qui donc dévient leur trajectoire. Et puis il y a un autre effet un peu plus subtil mais qui est très important et qui d'ailleurs rend difficile la prédiction d'un impact et qui joue sur les petits géocroiseurs, c'est un effet thermique qui s'appelle Yarkovsky. Alors ça vient d'un Russe qui avait découvert ça au début du 19e du 20e siècle, et c'est un effet thermique qui vient du fait que quand l'objet tourne sur lui-même, il reçoit la chaleur du soleil d'une certaine direction. Et puis le temps qu'il la réémette, il a un peu tourné et donc il la réémet dans une direction différente. Et ça crée une petite propulsion très légère qui aussi lui permet de changer de trajectoire. Donc dans les calculs, il faut qu'on soit capable de prendre en compte ces perturbations-là pour pouvoir calculer l'évolution des astéroïdes, ce qui est un peu délicat parce que, évidemment, les calculs sont soumis à des petites erreurs qui s'accumulent dans le temps. Et comme je le disais tout à l'heure, pour des géocroiseurs, on arrive à être à peu près précis pour les quelques décennies qui viennent, pour un géocroiseur donné, et puis ensuite les calculs, les erreurs s'accumulent trop vite, d'où l'importance de les suivre pour prolonger les temps de prédiction.
Alors, Patrick Michel, vous avez croisé la route d'un certain nombre d'entre eux. Une de vos collègues est une éminente spécialiste de ces petits corps. Il s'agit d'Antonella Barucci, qui est impliquée comme vous dans les missions spatiales qui visent à les étudier de près, de très près. C'est notre reportage du jour et on en parle avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, Antonella Barucci, astrophysicienne, planétologue au LESIA de l'Observatoire de Paris, s'intéresse à la nature physico-chimique des astéroïdes. Co-investigatrice des missions emblématiques Hayabusa 2 de la JAXA pour étudier l'astéroïde Ryugu et Osiris-Rex de la NASA pour Bennu, dont on vient de récupérer récemment des échantillons de poussière, elle se prépare déjà à une prochaine mission pointant vers les satellites de Mars, Phobos et Deimos, avec toujours l'objectif d'ouvrir, à travers ces corps fossiles, une fenêtre inédite à la fois sur l'origine de notre système solaire, mais aussi de l'eau sur Terre.
Il y a eu deux missions, je dirais, dans les dernières périodes, deux missions qui c'est Hayabusa 2 de la JAXA, de l'agence spatiale japonaise, qui allait vers l'astéroïde Ryugu et qui a porté 5 grammes de matière, et la mission Osiris-Rex qui allait vers l'astéroïde Bennu et donc qui a porté plus que 120 grammes de matière au sol. Donc moi, j'ai étudié la composition, donc ma spécialité, c'est vraiment étudier la composition avec tous les moyens à disposition, qu'ils soient des caméras, qu'ils soient des spectromètres à l'infrarouge, dans les lointains infrarouges, pour comprendre de quoi ils sont formés, ces objets. Et donc là, vraiment, les résultats principaux, c'est par exemple dans les cas des Bennu, c'était de voir que cet objet qui émettait de la poussière, c'est vraiment des particules très, très petites, un peu comme une comète. Donc, normalement, dès qu'un objet il met de la poussière, on les classifie comme une comète, parce que c'est la comète qui a la queue, la chevelure, etc. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de limite entre les astéroïdes et les comètes. On peut les considérer vraiment en continuum. Et un des découvertes plus intéressantes, c'est vraiment comprendre qu'il y avait des phyllosilicates sous la surface, qu'il y avait des organiques et des carbonates. Et donc, tu sais, maintenant, on va voir cet échantillon sur Terre. L'échantillon des Osiris-Rex, ils sont arrivés en septembre 2023. Celle des Ryugu avec la mission Hayabusa 2, ils sont arrivés en décembre 2020. Et là, cet échantillon, on va être analysé pour essayer vraiment de comprendre avec les instruments les plus sophistiqués qu'on a au sol, avec des analyses très détaillées, de quoi ils sont formés, quoi sont composés. Dans les cas des Ryugu, la matière analysée, reportée sur Terre, même si c'était quelques grammes, vraiment, c'était la matière la plus primitive qu'on n'avait jamais analysée en laboratoire. Et donc, on a fait des découvertes vraiment grandioses dans les cas des Ryugu, où on a trouvé des grains présolaires, donc qui sont plus vieux que les soleils, très importants, des matières organiques, des hydrocarbures et aussi des aminoacides. Donc, tout ça, c'est très important pour comprendre aussi l'origine de la vie. Donc, les données des Bennu, ils sont en train d'être analysées, ils sont bien d'arriver. Donc, normalement, quand on a des données qui viennent de l'espace, la moitié ou plus, il est conservé pour la postérité quand on aura des instruments de plus en plus sophistiqués. Et les restes, on va les classer, on va faire les premières analyses dans les Curation Facility, par exemple dans le cas de Bennu de la NASA, de l'Agence spatiale américaine, et après distribuer partout dans le monde entier pour faire des analyses très détaillées. Vraiment, le but, c'est comprendre de quoi ils sont formés ces objets, cette matière si primitive de notre système solaire.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à partir de l'étude de ces petits corps, on peut comprendre des choses et des phénomènes cosmiques qui précèdent même la formation du système solaire et qui peuvent caractériser quelque chose sur le nuage originel qui a accouché de notre système solaire.
Oui, c'est ça. Donc, vraiment, on voit des informations aussi sur les types d'étoiles qui se sont formées, par exemple, avant notre Soleil. Donc, c'est ça, les grands présolaires, qu'on appelle les grands présolaires, qui étaient là avant le Soleil même. Vous imaginez l'information qu'ils ont, ces objets. C'est vraiment grandiose.
Il y a un phénomène qui vous intéressait, c'est l'effet Yarkovsky par rapport à l'insolation de l'astéroïde, du fait qu'il ne reçoit pas la même quantité d'insolation au cours de sa révolution autour du Soleil et qu'il y a un effet sur sa rotation à la fois en réémettant de la lumière.
Oui, alors tout ça, c'est plus dans les détails de la formation des astéroïdes, dans les faits qu'ils sont très près du Soleil. Donc, cet effet, ça fait que les soleils changent la vitesse de rotation de ces objets. Donc, ça, ce sont des quelque chose qui est important pour comprendre l'évolution de l'objet lui-même. Parce que les soleils, ils changent la rotation. Et donc, comme la majorité de ces petits objets sont des agrégats de matière, donc ils peuvent changer aussi la forme des objets eux-mêmes en fonction de la rotation.
Et par rapport à la géométrie de Bennu, il y a quelque chose qui était peut-être assez énigmatique, sa forme en diamant. Est-ce qu'on peut l'expliquer par des forces mécaniques ou ça reste encore assez mystérieux?
La forme de Bennu, c'est comme on disait, c'est dû à l'effet des YORP. Donc, c'était dû à l'effet solaire, des réchauffements solaires. Donc, comme je vous disais, ces objets sont l'agrégat des matières. Et surtout, par exemple, beaucoup de petits objets qui sont celles qui font partie des geocrossers, qui sont côté de la Terre, on l'appelle rubble pile. Donc, c'est un agrégat de matière, donc des particules qui sont ensemble, accrétées ensemble. Et grâce au réchauffement du Soleil, comme ils sont très proches du Soleil, ils changent la vitesse de rotation. Et donc, ils forment cette forme avec un équateur qui est très bombé. Et donc, ils ont cette forme très particulière. Mais ça, c'est un phénomène qui est arrivé pour Bennu et Ryugu. Donc, c'est pas unique dans les systèmes solaires. Et ça, c'est quelque chose que notre collègue Patrick Michel, il étudie depuis longtemps et c'est vraiment sa spécialité.
Quelles sont les prochaines missions, les prochains petits corps que vous allez étudier dans le système solaire?
Donc, ce que je vais étudier en particulier, c'est la mission MMX de l'Agence spatiale japonaise qui s'appelle Martian Moon Exploration, donc qui va être lancée en 2026 et qui va, il va dans les systèmes martiens, mais en particulier, il va se mettre en orbite autour de Phobos. Donc, le but, c'est d'étudier les deux satellites de Mars, parce qu'on pense que ces deux satellites pourraient être des astéroïdes capturés ou bien être issus d'une grande collision avec la planète Mars. Donc, c'est là aussi encore très intéressant pour comprendre comment on arrive à former ces objets et comme tous les processus des collisions et des captures dans notre système solaire. Donc, c'est vraiment le but, c'est essayer de comprendre au maximum à l'intérieur de notre système solaire ces processus de formation et d'évolution qui sont quand même très complexes.
Merci Céline Lozen pour votre reportage. On reviendra dans quelques instants sur la mission MMX. Mais Patrick Michel, Hayabusa 2 a effectué donc deux récoltes d'échantillons. Elle a aussi déployé avec succès des mini-hoppers et l'atterrisseur franco-allemand Mascotte. C'est une expérience d'impact. Et elle confirme qu'on comprend pas bien la physique des impacts sur ces petits corps.
Oui, alors d'abord, je voudrais dire que je vous remercie d'avoir pris Antonella Barucci dans l'émission parce qu'on a vraiment un lien très étroit. Dans mon livre, À la rencontre des astéroïdes chez Odile Jacob, je raconte l'aventure qu'on a vécue ensemble puisqu'on a essayé pendant 7 ans tous les deux, puis bien sûr avec bien beaucoup de monde autour de nous, de faire monter une mission à l'Agence spatiale européenne de retour d'échantillons pour accompagner justement les Américains et les Japonais. On n'a pas réussi, mais ça m'a permis de vraiment comprendre la complexité de l'environnement de l'Agence spatiale européenne, politiquement, comment se battre pour monter une mission. Elle a vraiment eu un rôle clé dans ma carrière, et c'est grâce à elle, je pense, que je suis aussi impliqué dans le spatial. Et d'ailleurs, j'ai le bonheur d'accompagner ses aventures avec elle de la mission MMX de la JAXA, puisque je suis moi-même responsable scientifique du rover qui va se poser sur Phobos, qui est développé par le CNES avec des ingénieurs formidables et l'agence spatiale allemande. Donc ça me touche énormément qu'elle participe à l'émission, parce qu'elle a vraiment joué un rôle majeur. Et effectivement, la mission Hayabusa 2 a été une aventure incroyable, parce que si Osiris Rex, j'allais dire, s'est contenté, mais c'est péjoratif, parce qu'elle a fait des manœuvres complexes de récolter un échantillon de Bennu, ça n'enlève rien à la complexité de tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont eu une approche différente. Hayabusa 2, ça a été une aventure de cow-boy, hein, parce que non seulement récolter un échantillon, c'est difficile, deux, évidemment, une fois qu'on en a un, prendre le risque d'y aller une deuxième fois, moi j'étais pas très pour, bravo. Et puis en plus, ils ont déployé des mini-hoppers, un atterrisseur franco-allemand, aussi développé par le CNES et l'agence spatiale allemande, et puis ils ont fait un impact. Et en fait, cet impact a été fait en déployant une boîte à 100 mètres de distance de l'astéroïde, à la faire exploser, donc là aussi, il faut quand même le faire, et en explosant, ça a libéré et donné de la vitesse à un projectile de 2 kg, qui a tapé à 2 km par seconde sur la surface de cet astéroïde Ryugu qui fait 900 mètres de diamètre. Et la taille du cratère était bien plus grande que ce que les calculs prédisaient. Et la seule façon d'expliquer cette taille, c'est de supposer que la surface n'avait pas de cohésion. Un peu comme un sable qu'on met dans sa main et dont les grains ne collent pas et ils s'écoulent. Ben voilà, on avait affaire à quelque chose sans cohésion, presque comme un fluide, presque comme dans un beurre fondu. Et c'était très contre-intuitif, parce que les images nous montrent des rochers. Donc ce que nous a appris cette expérience, c'est que pour l'instant, se fier aux images pour déterminer le comportement de l'objet et sa réponse au processus externe qu'il subit, est trompeur. Parce qu'on peut penser qu'une surface est solide, alors qu'en réalité, quand on va la toucher, eh bien, elle va nous faire ressentir aucune réaction. Tout ça parce que on est dans un environnement qui est très différent de celui de la Terre. Sur la surface de Ryugu, il y a tellement peu d'attraction que si je m'excite sur ma chaise, là, comme maintenant quand je vous parle, je suis déjà en orbite sur Ryugu. Parce que voilà, tout est sensible et du coup la matière ne se comporte pas exactement comme sur Terre. Et donc ces expériences-là d'interaction physique nous permettent d'avancer dans notre compréhension justement de ce comportement dans un environnement si différent. Donc ça a vraiment été quelque chose d'essentiel. Et je veux rajouter une chose, c'est qu'en fait la raison pour laquelle on a choisi Bennu et Ryugu pour récolter des échantillons avec ces missions Osiris-Rex et Hayabusa 2, c'est parce que justement, et on l'a vérifié déjà avec les premières analyses d'échantillons de Ryugu, ils contiennent des acides aminés, mais il y a même de l'uracile qui est une base de l'ARN sur Ryugu. Et donc on essaie de vérifier ce scénario, qui a d'ailleurs été élaboré en partie à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, qui prédit qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts, et il se pourrait que ces impacts d'astéroïdes aient apporté tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Alors c'est des modélisations qui nous disent ça, et maintenant on a la chance de pouvoir aller récupérer des échantillons de ces astéroïdes pour les analyser et vérifier ces scénarios-là, donc c'est absolument magnifique.
Et c'est le résultat qui renforce donc cette théorie selon laquelle la chimie froide de l'espace peut produire certains des ingrédients clés de la vie. Alors, mieux connaître ces astéroïdes, ça permet d'établir de meilleures prédictions d'impact potentiel. Comment se prépare-t-on aux événements d'impact? Restez à l'écoute. Astéroïde Galaxy Tour, Out of Frequency sur France Culture, car nous nous entretenons tout au long de cette heure avec l'un des spécialistes mondiaux de ces petits corps, Patrick Michel, astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur et responsable scientifique de la mission ERA en développement à l'ESA. On vient de parler du retour d'échantillons terrestres de ces astéroïdes, des expériences et de la physique de ces petits corps dans l'espace. Parlons à présent de cette expérience, de cette mission ERA. Dévier un astéroïde de sa trajectoire, c'est la mission d'Artera. Je renvoie nos auditeurs à jeter une oreille à notre podcast d'Artera à la fin de l'envoi Je touche. On vient de vous poster le lien sur Twitter. On entend d'ailleurs votre joie, Patrick Michel, pendant cette émission. Le 27 septembre 2023, à 1h14, la sonde DART a percuté l'astéroïde Dimorphos pour le dévier de sa trajectoire. On en a déjà parlé. Par contre, on peut parler de cette mission ERA qui a reçu le financement des États membres de l'ESA pour un lancement en octobre 2024.
Oui, absolument. Donc le lancement est prévu le 7 octobre 2024. Il y a une fenêtre qui dure à peu près 3 semaines, mais on espère bien lancer le 7 octobre par une fusée Falcon 9 de la compagnie SpaceX depuis Cap Canaveral. Ça va être un moment évidemment extraordinaire, fruit de tellement d'années d'abord de bataille, puis après de développement. Les industries et les ingénieurs de l'ESA ont travaillé d'arrache-pied pour être prêts, parce que les échelles de temps pour développer la mission étaient pas tout à fait standard, et pour être prêt pour lancer. Et donc, c'est la mission qui, en gros, c'est un peu le détective. C'est comme dans l'inspecteur Colombo, on commence toujours dans les épisodes par connaître le criminel. Donc là, c'est la sonde DART qui a fait un impact sur un astéroïde. Et puis, ensuite, le détective, il retourne sur la scène du crime pour l'analyser, savoir ce qui s'est passé et comprendre exactement, refaire un scénario global. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser la sonde ERA pour documenter complètement cette expérience, puisque en réalité, une fois que la sonde DART a fait son travail et qu'elle a dévié l'astéroïde, en fait, on ne sait pas dans quel état est l'astéroïde et on ne sait pas exactement quelle a été l'efficacité de la déviation, même si on sait qu'on a dévié. Et d'ailleurs, d'après les données qu'on a de la mission DART, qui sont partielles, eh bien, la seule façon qu'on a d'expliquer ce peu de données, c'est de supposer que ce petit corps sur lequel la sonde a tapé était très peu résistant et que l'impact l'a complètement déformé. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser un cratère, normalement, quand on fait un impact, on fait un trou, là, en fait, l'objet était si peu résistant qu'on l'a complètement déformé. Mais on n'en est pas sûr. Ça vient de calculs et sur la base des mesures qu'on a fait depuis la Terre, et puis le télescope Hubble qui nous a montré des images magnifiques de la poussière produite par l'impact, qui d'ailleurs s'étale sur des dizaines de milliers de kilomètres parce que le vent solaire l'entraîne à plus grande distance. Et en combinant tout ça, on dit voilà, c'est peut-être ce qui s'est passé, mais on ne le sait pas. Et pourquoi c'est important de le savoir? C'est parce que d'abord on veut vérifier que la technique a été efficace, et on veut surtout valider les simulations d'impact qui sont pour l'instant validés à l'échelle d'expériences d'impact en laboratoire. On fait des expériences sur des cibles qui font quelques centimètres de diamètre, et puis on essaie de valider pour s'assurer comment on comprend cette physique à petite échelle. Mais il nous faut une validation à grande échelle, de telle sorte que on puisse ensuite extrapoler cette première test de déviation, cette première expérience, à d'autres scénarios. Et la validation, c'est quoi? C'est avoir les bonnes conditions initiales. Donc ça, c'est l'impact de DART. Maintenant, on sait exactement comment la sonde a tapé et où sur l'astéroïde. Et puis, le résultat final. Qu'est-ce que les simulations doivent reproduire? Et ça, c'est la sonde ERA qui va nous le donner. Donc, en partant le 7 octobre 2024, elle va d'abord faire un survol de Mars en mars 2025, et ce qui va nous permettre d'ailleurs de survoler aussi Deimos, qui est la deuxième petite lune de Mars, et peut-être voir une face qu'on n'a jamais vue, ça serait intéressant. Et ensuite, à l'automne 2026, elle arrivera sur, alors c'est un astéroïde double, Didymos, dont la petite lune a été déviée de sa trajectoire autour de son corps principal. Et à partir de là, elle va mener l'enquête, non seulement avec une sonde mère, un satellite qui fait à peu près une tonne, mais aussi deux mini-satellites, on appelle ça des CubeSats, dans le New Space comme on l'appelle. Ce sont des petites boîtes à chaussures qui vont être déployées pour faire des analyses et des mesures à plus grande proximité, avec l'un d'entre eux en particulier qui contient à son bord un radar basse fréquence dont la responsabilité est française, Alain Éric à Grenoble, et avec le CNES impliqué dans les opérations, qui va pour la première fois sonder la structure interne d'un astéroïde, ce qui n'a jamais été fait. Et donc on va vraiment savoir si ce petit corps sur lequel on a tapé est une roche monolithique, un grand monolithe, ou alors un agglomérat de roches liées entre elles avec de la cohésion ou simplement de la gravité. Et ça, c'est important parce que pour comprendre pourquoi cet objet a répondu à l'impact tel qu'il l'a fait, il faut savoir de quoi il est fait, parce qu'une éponge ne réagit pas de la même matière qu'une barre métallique, par exemple.
Oui, puis c'est aussi important de bien vérifier si ces technologies de déviation d'astéroïdes fonctionnent, parce que les risques sont réels. Ça, on le sait, les risques d'impact, on le sait grâce à la Lune, qui a enregistré justement le taux d'impact sur sa surface. Quelles sont les fréquences d'impact qu'on a pu mesurer justement sur la Lune, Patrick Michel ?
Alors en fait, effectivement, le problème qu'on a, c'est que sur Terre, on a deux tiers de la surface qui est couverte d'eau, donc ça fait plouf. Et puis on a la tectonique des plaques, des phénomènes d'érosion qui effacent les cratères. On en a quelques-uns magnifiques comme le Meteor Crater en Arizona qu'on peut visiter, et qui fait à peu près 1 kilomètre de diamètre. Et là, on voit vraiment que c'est un cratère. Sinon, c'est très difficile de les identifier. La Lune, elle n'a pas ce problème-là. Elle n'a pas d'atmosphère en plus, donc elle a enregistré les impacts depuis les 4 derniers milliards d'années, et on a pu calculer et d'ailleurs calibrer sur Terre les fréquences d'impact d'astéroïdes, et on estime qu'on a à peu près un corps de 1 km de diamètre qui rentre en collision avec la Terre en moyenne tous les 500 000 ans, et un corps de 140 mètres de diamètre, qui est donc le seuil qu'on cherche maintenant dont on cherche à en avoir l'inventaire, et bien c'est à peu près tous les quelques dizaines de milliers d'années. Et puis évidemment, plus on rentre, on va dans des petites tailles, plus c'est fréquent, mais moins ça fait de dégâts. Donc c'est là qu'on peut se dire que d'accord, c'est un risque dont les échelles de temps sont quand même très longues par rapport à la durée de vie d'un individu. Par contre, faut faire attention quand même, parce que ben, c'est comme au loto, en général on doit pas gagner, mais il y en a qui gagnent. Donc ça serait bien de pouvoir s'assurer qu'on est prêt si jamais un objet nous arrivait dessus plus tôt que prévu, surtout que c'est faisable. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pertinent de s'en occuper sans s'en préoccuper, c'est que on a affaire à un risque que l'on peut prédire et prévenir avec des moyens qui sont somme toute raisonnables, ce qui est réalisable, il n'y a pas de gros verrou de technologie à lever, mais qu'il faut mettre en œuvre. Avec en plus aussi une coordination internationale, puisque le jour où il arrive quelque chose, eh bien, il faudra qu'on s'assure qu'on est capable d'abord de répondre rapidement et de façon coordonnée à l'échelle internationale. Vous savez, ce risque-là, en dépit du fait que c'est un phénomène à faible probabilité, mais à haute conséquence, c'est un petit peu comme une pandémie, aux États-Unis, il est considéré au niveau de la Maison-Blanche. Donc c'est la Maison-Blanche qui s'en occupe. On a des groupes de travail à l'ONU. La France est impliquée. Moi-même, je vais aux États-Unis de temps en temps discuter avec mes collègues. Je suis aussi dans un groupe de travail à l'ONU. Et en fait, c'était marrant, une petite anecdote, mais j'étais aux États-Unis en juillet à Washington, justement, pour une réunion là-dessus. Et le conseil de la Maison-Blanche me disait, mais c'est bien, on voit que la France y intéresse. Puis je dis, ah non, attends, moi, mais je suis pas sûr que mon gouvernement sache que ce problème existe. Donc ça serait un moment bien aussi que les politiques soient sensibilisées, sans naturellement en faire un sujet majeur, mais au moins sensibilisées pour que ben, quand il arrive quelque chose, d'abord ils sachent que ça existe, ils sachent qui travaille en France. Ce qui est arrivé à Tcheliabinsk c'était le 13 février 2015, le 15 février 2013, pardon, au-dessus de la ville de Tcheliabinsk en Sibérie, un objet qui a explosé dans l'atmosphère, ça a fait 1000 blessés. Et à ce moment-là, le responsable de la NASA, Charles Bolden, a été immédiatement convoqué au Congrès américain, qui lui a dit « Mais attendez, là, comment ça se fait, vous l'avez pas vu venir ?» pour vous montrer l'intérêt qu'ont les Américains d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ce risque-là. D'ailleurs, il y a eu un sondage et les Américains ont dit que la NASA, c'était son premier rôle, c'était de faire ça. D'ailleurs, Charles Bolden avait été malin, il avait dit au sénateur, mais vous savez, si vous m'avez donné les budgets que je demande depuis 10 ans, peut-être qu'on l'aurait prédit.
Et puis on sait que si on détecte un astéroïde en direction de la Terre, 6 mois d'anticipation, c'est déjà trop tard.
6 mois d'anticipation, ça sera compliqué d'envoyer une sonde pour le dévier, effectivement. Là, ça sera trop tard, et c'est justement ça qu'on cherche à éviter, sachant que la probabilité que ceci se produise est extrêmement faible. Elle est pas nulle, mais elle est extrêmement faible. Pour tout dire, moi qui pourtant m'y intéresse, j'ai plus peur sur mon vélo que de me prendre un astéroïde sur la tête. Mais quand même, il vaut mieux être prêt, surtout que on sait que pour ce genre de risque, qui est multiparamètre, c'est-à-dire qu'il y a le volet prévention, avoir fait l'inventaire des objets, le volet prédiction, le volet prévention, c'est s'assurer qu'on a une méthode pour les dévier, et le volet qui décide si jamais on découvre un objet qui nous arrive dessus, tout ça, ça nécessite plusieurs étapes à franchir pour s'assurer qu'on est prêt. Donc en principe on a le temps, mais voilà, ce qu'on aimerait c'est pouvoir le faire pour à terme pouvoir offrir un plan solide aux futures générations qui auront à y faire face, parce que si jamais ça arrive avant qu'on soit prêt et qu'on ait un plan robuste, ben c'est pas dit qu'on arrive à en faire quelque chose. J'ai dit toujours, les dinosaures auraient bien aimé avoir une agence spatiale qui s'occupe d'eux. Et là, on a le temps, ça demande pas des budgets faramineux. Et donc, ça ne prend pas des budgets pour des problèmes plus importants. Et c'est faisable. Et d'ailleurs, on est en train de le faire, hein. C'est, depuis maintenant 20 ans, on a à l'ONU des groupes de travail, qui ont été validés en 2013, mais qui travaillent ensemble pour savoir prédire, savoir communiquer si jamais il y a une alerte et éventuellement des agences spatiales sont capables d'implémenter. Là, on voit qu'on a un premier test de déviation réussi qu'on va revérifier avec ERA et vérifier vraiment ce qui s'est passé. On a cet inventaire qui devrait être poursuivi depuis la Terre et puis depuis l'espace. Voilà. Alors, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est important de pas le faire au dernier moment. Et en plus, c'est ça aussi l'avantage, c'est que en faisant ça, on fait aussi de la science, puis que comme je le disais, peu importe les objectifs pour lesquels on étudie ces astéroïdes, l'objectif principal, de toute façon, les connaissances qu'on obtient ont aussi une grande valeur scientifique, puisque on a besoin pour l'instant des mêmes connaissances pour se protéger du risque d'impact et pour avancer dans notre compréhension de l'histoire du système solaire. Donc c'est gagnant-gagnant.
Alors, quelles sont les missions à venir à destination des astéroïdes? Pour introduire cette question, je vous propose une lecture, un extrait de votre ouvrage « À la recherche des astéroïdes » paru chez Odile Jacob en 2023. La sonde s'approchant, la résolution des images devenait meilleure et nous découvrions un nouveau petit monde. C'est pendant ces moments d'arrivée d'images de plus en plus détaillées de nouveaux mondes situés si loin de nous et donc de découvertes que le sentiment d'être un explorateur se ressent fortement. En effet, cela faisait plus de 2 décennies que nous rêvions de savoir à quoi ressemble dans ces détails un petit astéroïde carboné. Les seules images d'un tel astéroïde que nous avions étaient celles de Mathilde, un astéroïde bien plus grand, 53 km de diamètre, prise à grande distance lors de son survol dans la ceinture des astéroïdes par la sonde NIR Shoemaker de la NASA en 1997. Ces images avaient déjà suscité un grand nombre de questions, mais restaient à trop basse résolution pour en tirer de véritables enseignements, notamment sur les propriétés précises de la surface. Avoir la chance d'être parmi les premiers à découvrir ces nouvelles images détaillées donne la sensation d'explorer un nouveau territoire, situé à plusieurs centaines de millions de kilomètres, et d'écrire l'histoire de l'exploration spatiale. Car il y a un avant cette découverte, avec des pages blanches ou seulement des dessins concernant ces objets dans les livres d'astronomie, et un après, quand les livres se remplissent d'images réelles de ces nouveaux mondes. Il y a donc bien une transition, en être un acteur procure une sensation qu'il est impossible de traduire par des mots et que seules les personnes impliquées dans les missions spatiales d'exploration peuvent appréhender. Patrick Michel, on arrive vers la fin de cette discussion. Vers quel autre nouveau horizon allez-vous vous orienter ?
Oh là, alors de nombreux horizons, puisqu'on a déjà la mission MMIS qui va aller prendre un échantillon de Phobos, l'une des 2 lunes de Mars. On a la mission Hayabusa 2 qui est repartie pour faire un rendez-vous avec un petit objet qui fait à peine quelques dizaines de mètres de diamètre et qui tourne en 10 minutes sur lui-même. Donc il y a un lever et coucher de soleil tous les 5 minutes. Incroyable. À quoi ça va ressembler dans l'espace, un petit corps comme ça, on n'en sait rien. On a la mission Osiris-Rex qui est repartie pour aller voir l'astéroïde Apophis qui, le vendredi 13 avril 2029, sans ne représenter aucun risque, va passer si près de la Terre que plus de 2 milliards de personnes le verront à l'œil nu depuis l'Europe, donc même depuis la France, le soir du vendredi 13 avril et l'Afrique. Et d'ailleurs, on cherche à faire monter une mission européenne pour aussi aller le voir pendant ce passage et nous dire si les forces de marée de la Terre peuvent changer sa forme, ce qui serait extraordinaire, et offrir aussi au public les images de l'astéroïde, tandis qu'il voit sa lumière à l'œil nu, ça se resterait dans la mémoire collective. On a les Émirats Arabes Unis qui vont survoler 7 astéroïdes qui vont partir en 2028, donc on a des nouveaux acteurs et des nouvelles agences qui s'intéressent à ces astéroïdes. Puis on a deux missions de la NASA, l'une qui survolera des astéroïdes qui partagent la même orbite que Jupiter et une autre qui va aller voir un corps métallique. Et sachant que, comme je l'ai décrit dans le livre, à chaque fois on a eu un plaisir incroyable à découvrir ces nouvelles images qui à chaque fois nous ont surpris, ben vous vous rendez compte avec le nombre de corps que l'on va voir qui vont nous amener jusqu'à mi-2040 pour ces missions-là, le nombre de découvertes et de plaisirs ne va faire qu'augmenter. Et tout ça aussi, je tiens à le dire, dans une atmosphère absolument génial d'équipes qui sont internationales, donc multiculturelles. Et vraiment, c'est quelque chose que je tiens à dire aux jeunes, c'est que ces expériences et ces aventures spatiales nous montrent, c'est que d'abord, il faut reprendre la notion de temps long, c'est-à-dire que ces réussites nécessitent de gros efforts, de la persévérance sur un temps long. Ce n'est pas l'instantané, on ne réussit pas avec des likes, c'est vraiment des efforts, la mise en commun de plein de compétences. Il y a de la place pour tout le monde, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être le meilleur dans tout, il faut simplement se donner à fond et vouloir être le meilleur dans ce qu'on fait. Et la notion, cette notion de temps long, de persévérance, d'acceptation de l'échec en cours de route, parce que ce que je vous dis là, quand on dit DART a réussi, ERA va être lancé, si vous lisez mon livre, vous verrez que ça a été plein d'embûches avant d'en arriver là. Et c'est pas grave, se planter, ça permet d'apprendre si on sait justement s'enrichir de ces échecs plutôt que d'en être miné. Et puis finalement, la science, comme maintenant, rien ne se fait tout seul, hein, il n'y a aucune réussite qui se fait tout seul. Je déteste quand on dit que quelqu'un est la star dans son domaine, ça n'existe pas. On a besoin de tout le monde. C'est vraiment des aventures humaines incroyables où on s'enrichit culturellement et on s'enrichit de notre diversité. C'est très important aussi, cette multidisciplinarité, cet aspect multiculturel qui en fait efface les frontières entre nous. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire.
Votre passion, votre goût pour la science et pour en effet cette aventure collective, c'est quelque chose qui est en effet très au cœur de votre ouvrage, que j'invite d'ailleurs à toutes et à tous à dévorer, parce que c'est un ouvrage qui est tout à fait passionnant à lire et tout à fait accessible.
Ben c'est ce que j'ai voulu en fait, c'est vraiment montrer que la science qu'on utilise souvent en France malheureusement comme un outil pour juger de l'intelligence d'une personne, hein, les maths, si t'es nul en maths, t'es bête. Ben non, c'est pas vrai. On doit chacun s'approprier cette technique, en fait, cet outil, ce langage, et prendre son temps. Et ça permet de faire des choses absolument incroyables et de vivre de grandes aventures, puisque, comme je l'ai dit, maintenant, si on veut faire des grandes découvertes, il faut des grands projets, de la coopération internationale. Et donc il y a des tas de façons de se faire plaisir et de s'enrichir mutuellement en travaillant avec des gens passionnés, formidables. Et ça, vraiment, je souhaite que les jeunes reprennent le goût à ça. Vous savez, il y a une chose que j'aimerais, c'est que dans la culture générale, les connaissances scientifiques de base soient introduites, ce qui est un petit peu perdu. Je ne sais pas si au ministère de la Culture, le volet science existe, mais il ne faudrait pas seulement qu'il soit au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que ces connaissances de base sont toujours utiles. Et je le dis toujours, quand on regarde un tableau, on l'apprécie encore plus quand on sait pourquoi le peintre l'a peint comme ça, par exemple. Et quand on regarde un coucher de soleil et qu'on sait pourquoi le ciel il est rouge, c'est encore plus magnifique. Donc c'est le message que j'essaie de donner dans ce livre aussi.
Eh bien, merci pour ce magnifique entretien, Patrick Michel. On est arrivé à la fin de cette discussion et comme chaque jour, on retrouve la chronique avec science. Aujourd'hui, Pierre Ropert nous fait cligner des yeux.
Cligner des yeux nous permet en fait de mieux voir. Le clignement des paupières, que l'on appelle également la nictation, a pour toutes les espèces terrestres une même fonction assez simple. C'est un réflexe qui nous permet en effet de nettoyer et d'humidifier la cornée de l'œil. Et on la nettoie souvent, nous passons entre 3 et 8% de notre temps d'éveil à cligner des yeux. Autrement dit, nous consacrons chaque jour près de 45 minutes à fermer les yeux très brièvement. Alors je dis très brièvement parce qu'un clignement d'yeux a une durée extrêmement courte. On parle d'un temps compris entre 100 et 300 millisecondes maximum. Curieusement pourtant, on ne devrait pas avoir besoin de cligner autant des yeux pour les maintenir lubrifiés. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé les chercheurs de l'université de Rochester, dans l'état de New York, aux États-Unis, à se pencher sur ce sujet. Les scientifiques ont découvert que les clignements d'yeux sont une étape supplémentaire de traitement de l'information perçue par les yeux. Cette découverte va à l'encontre d'une idée reçue qui envisage les clignements d'yeux comme une perte d'information visuelle. C'est ce que nous explique Thérèse Collins, professeure en neurosciences cognitives à l'université Paris-Cité.
Jusqu'ici, en fait, on voyait les clignements des yeux plutôt trop comme un problème pour la vision. Parce que bien sûr, donc la vision commence avec l'arrivée de l'information lumineuse dans l'œil. Elle est transformée en signal approprié pour le cerveau et ensuite elle est interprétée. Et donc les clignements des yeux interrompent l'entrée visuelle de manière très abrupte et totale, plusieurs fois par seconde. Donc on voyait ça plutôt comme un problème à expliquer, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on arrive à voir quelque chose ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le monde est stable et constant ? Alors qu'en réalité, l'entrée au cerveau est très bruitée et interrompue tout le temps. Et c'était un peu un mystère de savoir pourquoi finalement est-ce qu'on clignait des yeux plus souvent que nécessaire pour uniquement maintenir cette humidification nécessaire du globe oculaire. Parce que si c'était uniquement une interruption, on aurait pu imaginer que le système visuel aurait diminué au maximum ces moments d'interruption d'information, ces moments de clignement. Et puis, on ne savait pas non plus pourquoi, en fait, le taux de clignement variait avec ce qu'on était en train de faire. Mais on soupçonnait qu'il y avait autre chose derrière le taux plus élevé que nécessaire pour la physiologie des clignements.
Pour comprendre pourquoi les yeux clignent plus que de raison, les chercheurs ont donc recruté une douzaine de jeunes adultes. Les scientifiques ont couplé un oculomètre de haute résolution, c'est-à-dire un instrument capable de suivre et d'enregistrer les mouvements oculaires, avec des systèmes d'analyse spectrale des signaux visuels. Puis, ils ont demandé aux volontaires d'observer de toutes petites rayures obliques, noires et blanches. Après ou pendant la phase d'observation de ces barres obliques, les volontaires devaient cligner des yeux, puis préciser si elles étaient inclinées vers la gauche ou vers la droite. Le résultat de cet exercice est intéressant. Cligner des yeux raccourcit effectivement de près de 15% le temps d'exposition à une information. Et pourtant, si les paupières clignent pendant l'observation, que ce soit par réflexe ou volontairement à la demande des scientifiques, la perception de l'image est meilleure. En fait, ce qu'il se passe, c'est que les signaux sont mieux captés par l'œil juste après la réouverture de la paupière.
Là, ce qu'ils ont observé, c'est que la sensibilité visuelle, elle était meilleure lorsqu'on cligne que lorsqu'on ne cligne pas. En fait, ce qu'ils montrent dans cet article, c'est que le fait de cligner, le fait d'interrompre l'information, ça permet aux neurones de redevenir plus sensibles. Parce que les neurones visuels vont se mettre en activité face à un stimulus. Si ce stimulus reste longtemps, eh bien les neurones, suite à cette activité très importante, vont commencer à rebaisser leur niveau d'activité. Donc un stimulus prolongé va finalement donner moins d'activité globale qu'un stimulus qui apparaît plusieurs fois de suite. Et puis, il y a quand même une interruption de l'information visuelle. Donc, je pense que c'est un jeu de coûts et de bénéfices entre rafraîchir l'entrée qui arrive aux neurones, leur permettre ce reset, et ne pas trop interrompre quand même non plus l'arrivée de l'information visuelle.
En fait, en clignant des yeux, les neurones de la rétine subissent une sorte de reboot. Et ce redémarrage va les rendre plus sensibles à la lumière perçue. C'est notamment le cas pour les neurones sensibles aux basses fréquences, c'est-à-dire les neurones chargés de percevoir les informations globales d'une scène. En substance, les images grossières, les images en mouvement, peuvent être plus facilement perçues si vous êtes en train de cligner des paupières. Finalement, le paradoxe reste que lorsque vous fermez très brièvement les yeux, vous voyez certes un tout petit peu moins longtemps, mais vous voyez mieux.
Merci Pierre de nous ouvrir les yeux toute la semaine et merci à vous de les garder ouverts. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Céline Lozaine, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Et un grand merci aux camarades de France Bleu Azur, Jean-François Salé. Vous pouvez nous écouter partout en podcast à toute heure sur franceculture.fr. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.